Venez célébrer l'été avec les Franco de Montréal à la place des festivals. Toute la programmation extérieure gratuite est enfin dévoilée. Sur scène, Émile Bilodeau, Les Négresses Vertes, Deux Frères, Corias et plus encore. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec, en association avec La Presse Plus et Choc. Venez célébrer l'été avec les Franco de Montréal à la place des festivals. Toute la programmation extérieure gratuite est enfin dévoilée. Sur scène, Ariane Moffat, Fouki, Safia Nolin, Sans Pression, Vulgaire Machin et plus encore. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec en association avec La Presse Plus et Choc. Les Franco de Montréal vous invitent à faire la fête lors de la 31e édition. Toute la programmation est enfin dévoilée et c'est plus de 150 spectacles qui vous seront offerts au cœur du centre-ville. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec en association avec La Presse Plus et Choc.
Juillet prochain, le festif de Baie-Saint-Paul célébrera une décennie d'extravagance en grand. 90 spectacles, le vent du fleuve en pleine face, une tonne de surprises, de la bouffe locale et de la bière de micro qui coule à flot. À 50 minutes de Québec, le v'là ton road trip musical de rêve. Merci à nos fidèles complices, SiriusXM, Radio-Canada, Hydro-Québec, Desjardins, Bell et Loto-Québec. J'ai hâte au festif. I am a wanderlust. Lefestif.ca.
What a dang, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc.
Ma tasse de thé, c'est vous.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Alors, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et en VHS. Et non, ce n'est pas Simon qui parle, c'est bien moi, Eric, votre porteur de bonnes nouvelles. Mais j'ai en ma compagnie, en fait, je le présenterai, on aimerait tous l'avoir comme poster en haut de notre lit, avec son poil. Toute jeune fille et jeune homme voudrait l'avoir. Bref, Simon Predge.
Bonsoir.
Bonsoir. Comment vas-tu?
Ça va. Oh, le son, il a l'air bizarre, c'est-tu moi?
Ben, je sais pas. Là, faut dire que c'est moi qui est en contrôle, c'est moi qui contrôle la console.
J'ai l'impression qu'il faut que tu me lèves un peu, je pense. Ça se peut-tu?
Ah, faut tout le temps que je te lève un peu.
Faut tout le temps que tu me lèves un peu. Ça a l'air pas
pire. C'est pas pire.
Ouais, on va y aller avec ça pour aujourd'hui, je pense.
Ok, ben écoute, c'est peut-être le plus que je peux te lever pour l'instant.
Et voilà, vous l'aurez compris, c'est au tour d'Éric de prendre le contrôle de la console. C'est lui qui contrôle l'émission.
Ben voilà.
Et voilà.
Et ça, je sais pas comment ça va tourner.
Faut commencer quelque part.
D'habitude, on a Ali qui est avec nous, mais là. On peut faire le party, il est pas là.
Oh shit, yeah!
Oh yeah!
All night long! All night! All night!
D'abord, on préfère juste l'émission à danser tout le long.
All night!
Quand
all
même,
night! Hein. Ben oui, mets ça sur loop et on va danser.
Ben oui, voilà.
Fait que, y a personne qui nous écoute.
Ben non, c'est ça. Voilà. Quand même, ben non, Simon. Olivier, on t'aime.
All night! All night long! All night! All night! All night long, all night. Combien de temps je peux te faire, tu penses?
Une demi-heure.
All night long. Ok, ça va.
Non, c'est correct. Bref, Ali sera sûrement avec nous la prochaine fois.
Ben, il est avec nous en passé.
Ben oui.
Ben oui. Ben oui. Il est toujours là dans nos cœurs.
Toujours. Hey, on est profond, hein? Bref, écoute, vu que j'ai le contrôle, on va commencer avec les nouvelles.
Ben certain, on commence avec les petites nouvelles horrifiques.
En fait, comment vas-tu, toi? T'as-tu passé de beaux deux semaines?
Oui, en fait, je viens d'apprendre une excellente nouvelle.
Ben, vas-y donc.
Les boutiques au coton vont être de retour.
Écoute, c'est drôle que t'en parles. c'est comme une émotion, moi.
Hey, c'est vrai, j'ai une nouvelle affaire aussi. Mais je pense que je vais, vu que je l'ai oublié, je vais okay. la sortir, puis je vais me glisser à travers tes nouvelles à un moment donné.
Tu veux toujours te glisser.
On n'a pas fini.
Non, on n'a pas fini.
On n'a pas fini.
On n'est pas là, fait que de la merde.
Mais tu vois, c'est ça, moi quand je parle console, on dirait que je suis plus laid back, j'ai rien préparé à part ma non, chronique, je débarque, je m'assis, je t'ai vaché.
Non, mais au coton, là.
Hey, au coton.
On s'entend tous que ça va jouer sur la nostalgie, mais...
Mais c'est quoi l'idée? pour les Français, puis même les plus jeunes qui oui, connaissent pas, au Québec, on avait un magasin qui s'appelait Au Coton. Puis leur spécialité, c'était de vendre des chandails en coton ouetté.
Ben, voilà.
Puis c'était bien ordinaire, là, je veux dire.
Avec
c'était
les
comme...
petits macarons, tu peux avoir de toutes sortes de couleurs.
Ah, c'est lourd. Ben, tu sais, c'était un peu un running gag, là, on va se le dire. Oh, c'était comme une joke, puis...
En fait, c'est joué sur la fibre des années 80-90.
Exactement, exactement.
Quand même. Est-ce que tu veux que j'enchaîne ou t'as...
Ben oui, non, lance-toi. Lance-toi, je vais me glisser en toi pour mes nouvelles.
C'est bon. Écoute, je vais commencer avec une nouvelle qui m'a déçu.
OK.
Moi, un de mes films préférés d'horreur, c'est Black Christmas. Je pense que la vie, c'est pas mal celui-là. Bref, ils vont faire un deuxième remake.
Pourquoi?
Là, non, mais as-tu vu, toi, est-ce que t'as vu celui de 2006?
Non, mais... c'est pas parce que je l'ai repoussé. C'est pas parce que je voulais le repousser ou je l'aimais pas. C'est juste, c'était à donner comme ça, l'ai pas vu, puis c'est tout, là. Je ne juge pas le film, là.
Je l'ai vu récemment, puis c'était pas si mal que ça.
OK.
Mais, tu sais, l'original va toujours rester
Mais, tu sais, il y a pas longtemps, on excluant la personne qui parle, là, tu sais, disons, hashtag les gens se plaignaient de tous les remakes qui se faisaient parce que, bon, on est tannés d'avoir juste des maudits remakes. Tu sais, bon, ils ont pas complètement tort, mais ça veut pas dire que les remakes sont mauvais pour autant.
Non, c'est du cas par cas.
Puis, il y a pas de problème, là.
Tu sais, comme je te disais, pourquoi pas faire un film sur Pauk ou sur.
Non, voilà, il y a toujours d'autres possibilités.
La fin du travail. Très malade.
Mais moi, on dirait que la mode, elle vient de switcher. Puis là, la mode n'est plus au remake, mais la mode est au remake de remake.
Ah.
On est rendu là, on dirait là, que là, c'est comme l'effet miroir. Là, puis là, ça va être juste des remakes, de remakes, de remakes. On va se rendre à 5-6 d'après moi, je sais pas.
En tout cas, bref, ça va sortir le 13 décembre 2019.
Je trouve ça un peu absurde comme idée, je sais pas.
C'est moi aussi.
Ça veut pas dire que ce sera pas bon, mais...
Non, je sais.
Pourquoi?
Je suis un peu découragé.
Ça te tente pas d'en inventer une histoire?
Ben oui.
Tu sais, je sais pas. En tout cas.
Ou tu sais, à la limite, là...
Mais ça fait quoi, un an qu'il est sorti, l'autre?
Non, c'est en 2006. Ça fait
Ans. OK, 13 ans. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte que le temps passe vite.
Ben, ou sinon,
je pensais qu'il était plus récent.
Fait quelque chose comme 20 ans plus tard, ou peu importe, je sais pas, ou prequel dans le pire des cas, là.
Ouais.
C'était qui Billy avant, ou tu sais quoi que dans la version 2006, on en a parlé un peu, mais bon.
Ouais, je sais pas. On va quand même le découvrir, là. Ça veut pas dire que ça va être mauvais, mais je trouve que c'est une drôle d'idée.
Ouais, moi aussi. Ça fait que ça m'a déçu un peu. Bref, c'est pas grave. Je vais en venir à un moment donné.
Un jour.
Hey, t'as sûrement écouté Stranger Things?
Bien sûr.
Donc,
quelle bonne série.
Est-ce que tu dis ça avec ironie ou t'es...
Non, j'ai beaucoup aimé Stranger Things. J'ai adoré Stranger Things.
La deuxième saison, moi, moins, mais
bon. Je pense que j'ai pas embarqué autant que tout le monde. Je pense que les gens... je trouve que la génération actuelle... Là, je te parle pas de la génération, mais je parle de notre époque. On dirait que là, on s'insurge facilement. C'est l'avenue d'Internet qui a causé ça. On s'insurge un peu de tout pour absolument rien, puis on explose de colère pour pas grand-chose. Mais en contrepartie, quand les gens aiment, ils capotent. Oui. Il vire fou, là. Puis je pense pas que moi, je suis viré fou comme tout le monde avec Stranger Things, mais nul doute que c'est une excellente série.
As-tu vu, ça serait un sujet à débattre un peu intéressant plus tard, là. Je fais une parenthèse, là. Comme tu dis, les extrêmes, soit que t'haïs ça ou que t'adores ça. Puis les réseaux sociaux, on dirait que ça sort encore plus. Et moi, c'est un phénomène qui me dérange. Il n'y a plus de zone grise, un peu.
Excuse-moi de te couper, mais j'ai l'impression que le micro est soit trop loin de ta bouche ou que t'es pas assez fort comparé à moi. J'ai l'impression que ma voix est très proche de l'oreille de l'auditeur, puis moi, je suis à côté, puis je te sens loin.
Est-ce que tu m'entends mieux?
Ah, ça fait plus de sens, ça.
Ça fait plus de sens,
ouais.
Ça? OK. Mais
tu vas apprendre à maîtriser la console, là. C'était quand même pas si mal, là. C'est ton erreur aujourd'hui, je pense que tu t'en sors bien.
Ben écoute, je suis quasiment aussi bon que lui. Quand même. En tout cas, bref, mon lien avec Stranger Things, c'est que l'acteur Gaten Matarazzo, qui a 16 ans.
Ah oui.
Ouais, que dans le film, il va avoir un nouveau projet.
Mais oui.
C'est une espèce de surprise. surprise. Ouais, si ouais. C'est une émission d'attrape à caméra cachée du type Scare Tactics qui va être sur Netflix. La série de 8 épisodes s'intitulera Prank Encounters. Hey, je suis bon, ouais, je suis pas pire. Hein?
Prank Encounters.
Chaque épisode de cette émission d'attrape terrifiante, hilarante, prend deux inconnus qui pensent commencer leur première journée à un nouvel emploi. Tout se déroule bien jusqu'à ce que les chemins se croisent et que ses employés à temps partiel se transforment en cauchemar à temps plein.
Mais t'en penses quoi de ça? Parce que je sais pas si tu te souviens, ça, ou en tout cas si tu le sais d'ailleurs, parce que ça a été retiré des ondes assez rapidement. Ça a déjà existé, ce type d'émission-là. Moi, je l'avais appris d'un ami qui avait acheté le coffret DVD. La série n'avait même pas tout été diffusée à la télévision, entre autres parce qu'il y avait des poursuites. Le problème majeur du premier concept, de la première série. Je me rappelle pas comment qu'elle s'appelle, mais c'était animé par une des filles de Beverly Hills 90210, okay. La petite avec les cheveux noirs, là. T'sais, ils ont toutes leurs couleurs de cheveux respectives, là. Ben, celle aux cheveux noirs, là, je me rappelle pas son nom, là. Mais en tout cas, ils ont retiré des ondes parce que le problème avec ça, c'est que ça comporte des risques faire peur aux gens.
Oui.
Certains peuvent très mal réagir. Il y en a un, je me souviens, il était dans une voiture puis il se faisait attaquer par un loup-garou.
OK. Mais c'est la même voiture qu'on parle. OK, on parle de la même chose.
On parle de la même chose.
Oh, oui, oui.
C'était ça, Scare Tactics? C'est ça que tu disais?
Je pense que oui.
Ça se peut, je me souviens pas du titre.
Dans un lab, puis la personne elle arrive, puis une créature dans une caisse.
Ah ouais, sort, là, j'ai pas vu ça.
Sauf là, les gens capotent.
OK, mais j'ai pas vu celui-là. Okay. Ben, tu sais, il doit pas en avoir 15. Il y a des bonnes chances que ce soit la même chose ou pas, je sais pas.
Il y a une histoire de femme enceinte qui accouche, puis c'est... Il y a comme une secte autour d'elle, puis là, en tout cas, l'infirmière est sous le bord de faire une crise de mère. Tu sais, je comprends le risque.
Mais il y a des risques. Moi, ça fait longtemps. Moi, je suis pas prêt. J'ai pas de notes là-dessus, c'est de mémoire, là. Mais si je me rappelle bien, l'histoire du loup-garou, le gars était dans la voiture avec sa copine ou je sais pas quoi. Ouais. Je pense que sa copine est dans le game, mais lui, il sait pas. Le loup-garou débarque, puis là, il rentre par la fenêtre de l'auto ou quelque chose comme ça. Puis le gars virait fou, puis il a commencé à taper à gros coups de poing dans le loup-garou. Mais c'est parce que c'est un gars qui est dans le costume, là. Lui, il se faisait ramasser à coups de poing, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai entendu de mémoire, là, il me semble qu'il y avait eu au moins une poursuite, puis ça avait fait de la merde, puis l'émission avait été retirée des ondes.
Si je me rappelle pas, c'est pas un gars qui... c'est pas un truc d'armée.
Ça se peut, mais là, on parle d'armée. Oui, il y avait un truc d'armée, c'est vrai qu'il y avait
une... Moi, je pense que c'est lui qui poursuivait.
Ah ouais, hein?
Je pense, mais je suis pas sûr, là, je dis vraiment n'importe
quoi. Ouais, c'est de mémoire. Mais bon, on va voir, ça va être quoi leur approche, parce qu'il reste que ça se fait quand même. C'est ça, même si ça n'est que cette émission-là qu'on parle a eu des problèmes, il reste que ça se fait quand même. On a toutes vu des vidéos de gens qui font des pranks d'horreur, inspirés de films d'horreur, des ascenseurs, puis tout ça.
On rit, là.
On rit toutes, là. Il y a des risques, mais tu sais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont monter avec ça, parce que ça peut être vraiment trippant. J'espère que ça va tenir la route, moi.
Moi aussi. À suivre plus tard. Cette année, en fait. Hey, puis je t'en parlais tantôt, mais on est envahi de bandes annonces ces jours-ci. À commencer avec la première.
Je vais faire mon annonce avant parce que j'ai l'impression que tes bandes annonces, on va jaser pas mal.
Ouais, glisse-toi, vas-y.
Là, je me sens mal parce que je me suis pas préparé. On m'a envoyé ça, puis je trouvais que c'était une belle nouvelle à partager. C'est une sortie pour la France. Puis là, je réalise qu'il y a pas mal de textes, puis je l'ai pas lu avant. Fait que je peux pas le résumer. Mais je vais le lire, hein, par respect pour la nouvelle. Je vais la lire littéralement. Donc, Rayon X est le premier livre consacré à la folle histoire du porno en VHS, avec les témoignages de distributeurs, producteurs, clients de vidéoclubs et collectionneurs avec qui nous rembobinerons cette époque qui vit le cinéma pour adultes arrivé dans les foyers de monsieur et madame tout le monde. C'est aussi la première anthologie de jaquettes de VHS 3X reproduites à leur format d'origine tel qu'on les découvrait dans les vidéoclubs des années 80. Donc ils ont lancé ça la semaine dernière. Excusez-moi, ils ont lancé un crowdfunding la semaine dernière sur une plateforme chanson française qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank, avec des contreparties dans l'esprit de Féminidie en DVD avec Brigitte Lahaie. D'ailleurs, j'ai le titre, c'est Touchez pas aux Zizi et le bijou d'amour. des t-shirts avec des logos des éditeurs de VHS les plus cultes, des livres de la collection aussi. Donc, c'est vraiment un beau projet. Il y a déjà des photos des premières images là, de comment ils ont monté le livre. Puis, ben franchement, je pense fermement que c'est un livre que je vais me procurer parce qu'il est vraiment beau. Ça a l'air très prometteur. Donc, je vous invite à découvrir ça. Regardez, c'est le projet, c'est Rayon X sur Kiss Kiss Bank Bank. Je pense que ça va être pas mal cool comme livre. Puis, tu sais, bon, hein, on aime ça, ces livres-là. On aime ça, ces projets-là anthologiques. Mais si ça sort, ben je vous en reparlerai parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Puis là, qu'est-ce que tu fais à quatre pattes en dessous de la table?
Non, c'est parce que j'ai accroché le fil.
Ah, le fameux fil, je t'avais dit de faire attention.
Hein? Je sais, puis là, je l'ai accroché, puis là, c'est comme
ça. Tu vas l'accrocher tiré à peu près 4-5 fois ouais, avant d'apprendre. C'est
qu'est-ce
pas grave.
Tu veux coïncider, interrompu.
Ben non, c'est pas grave. Mais ouais, fait que c'est ça la petite annonce. Encouragez le projet Rayon X sur Kiss Kiss Bank Bank. Je vais partager un lien en ligne aussi. Je trouve ça un mot de beau projet.
C'est ça. C'est ça, mon cher.
Maintenant, les bandes annonces.
Les bandes annonces.
On a eu des belles sorties cette semaine.
Ben, mais hein, écoute, je te dirais la plus importante, c'est Dr. Sleep.
Ben oui.
De Mike Flanagan. Un réalisateur, moi, que j'aime beaucoup, qui avait Oculus, Hush, la série The Haunting of Hill House.
Moi, j'ai l'impression que je trippe moins que tout le monde.
Je sais. Mais toi, t'es différent. T'es spécial.
Non, bon. Mais, mais je l'haïs pas. Okay. J'irai pas jusqu'à dire que je l'ai, c'est pas vrai. Mais peut-être comme Stranger Things, justement. On dirait que je trippe moins que tout le monde.
Mais c'est correct, t'as le droit, Simon.
On dirait que ce qui me saute aux yeux dans ces films, oui, c'est que j'ai toujours l'impression que c'est réalisé par un papa. Puis ça me tape ses nerfs. Mais des gens comme, mettons, Steve. De séance de minuit. Okay,
oui,
Steven,
oui, oui.
Je veux dire.
Oui, Steven.
Steven Lefrançois, que vous connaissez probablement à la maison. lui qui est papa, je me rappelle, c'était-tu Oculus qu'on a vu à Fantasia? Tu t'en souviens-tu?
Non,
le papillon, là.
Ah, c'est Before I Wake.
Ouais, oui, c'est, ça, ouais, c'est ça. Bon, on était dans la même salle, puis bon, c'est une histoire très familiale.
Oui, oui.
Moi, je me suis pas senti interpellé par le film.
Moi, je trouvais que c'était moins bon.
Ah oui, OK.
Dans ce que j'ai
OK. Ben moi, l'impression que j'avais avec Steven, pis c'est justement la conversation qu'on avait eue en sortant, c'est que j'avais l'impression que parce que lui était papa, ça l'avait peut-être touché plus, tu sais.
Peut-être.
Mais bon, on s'évade, là. Mike Flanagan, oui, c'est un excellent réalisateur. Il a des idées originales aujourd'hui. Oui. Je trouve que sa ligne directrice est vraiment intéressante, puis je continue de le suivre, mais je trippe un petit peu moins que tout le monde.
OK. Ben moi, parce que The Haunting of Hill House, j'avais adoré ça. Je trouvais qu'il avait réussi à...
C'est vrai que c'est lui qui a fait ça.
Ben oui.
Je retire ce que j'ai dit. Haunting of Hill House, c'était ma découverte de l'année.
Quand même, là. Okay. Écoute, découvrir.
Vous avez raison. T'as raison.
Découvrir les fantômes dans la découverte.
C'était magique jeu, comme
c'est. C'était vraiment magique.
C'est vrai, bref, j'avais oublié ça.
Dr. Sleep, qui se trouve être la suite de The Shining.
Oh yeah.
Oh yeah. Va sortir le 8 novembre prochain en salle. On l'entend tous. Bref, c'est on trouve Danny, qui a maintenant 40 ans, alcoolique. Donc, il va découvrir des gens qui ont le même pouvoir que lui et des fantômes qui vont se nourrir de ces âmes-là, de ces enfants-là. Donc,
est-ce que toi, ça t'excite, ça? Mais là, deux points. Toi, tu l'as lu d'abord.
Moi, j'ai lu le livre.
Comment t'as trouvé le livre?
Contrairement, on a un éditorial, puis c'est correct, là, c'est son opinion, j'oublie mon collaborateur sur Horreur Québec, je m'en excuse.
On va l'appeler Huguette.
Ah ouais, non, c'est... j'ai un blanc de mémoire, c'est pas grave.
Ben, vous êtes tellement une gang, ben, là, vous êtes nombreux, tu te perds, là.
Ben, voilà, que lui avait détesté, là.
OK.
Ben, moi, j'ai vraiment adoré, je trouvais que c'était une belle suite. Comme je te disais, la seule chose qui m'agace, King, qu'est-ce que tu veux, il a haï The Shining. Il a haï ça, le film, on parle. Donc, il fait une préface pour dire comment il a haï ça, puis de pas avoir en tête le film. Bref, malgré tout ça, le livre commence... Super punch, là. Pas du tout. Le livre commence quand Danny est encore jeune avec sa mère. Et tout ça s'est passé. Okay. Et c'est vraiment... On dirait que tu t'en trouves dans les vieilles pantoufles.
Ouais, ben tu me donnes le goût de lire, en fait. J'avais comme un peu négligé parce que je l'ai plus de Stephen King. Bien. Ben ça me tenterait, ouais.
Mais moi, je te dirais que ça m'a... Que je vais faire une parenthèse là-dessus aussi. Ça m'a...
On a rien que ça à faire.
On a juste ça à faire des parenthèses. Ali est pas là.
Ben oui, ben oui.
Ça m'a réconcilié avec le nouveau Stephen King.
Ah ouais?
Ouais, j'avais comme décraché depuis un bout de temps. Puis quand j'ai relu ça, j'ai fait « Ah, j'ai hâte! » Puis j'ai lu Monsieur Mercedes, qui est excellent aussi. Bref, allez voir la bande-annonce si vous ne l'avez pas déjà vu.
Mais moi, j'ai un bémol, puis je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. En fait, je cherche à clarifier mon idée. Je vais être très honnête. Moi, j'ai vu la bande-annonce juste avant l'émission. Oui. J'essaie de plus regarder les bandes-annonces parce que je trouve qu'aujourd'hui, les bandes-annonces gâchent tout le film.
En effet.
Fait que j'essaie de plus les regarder, mais là, comme je savais que tu allais en parler, je dis bon, ben, je vais au moins me donner une idée. Je vais la regarder. On a regardé les bandes-annonces que tu allais parler aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Je ne connaissais pas l'histoire du livre, donc je l'ai découverte avec la bande-annonce. Puis il y a quelque chose, je suis pas certain. Puis je veux que tu saches ton opinion. Par rapport au livre, pas au film. Et c'est le fait qu'il tombe sur des gens qui ont le même pouvoir que lui. Puis là, ça a l'air d'être un... Depuis tantôt, j'essaie de clarifier mon idée. Tu sais, sometimes they come back.
Ouais, ouais, ouais,
tu sais, où est-ce que t'as une bande qui ont le pouvoir, puis que sont bad, puis ils font des mauvais coups. Puis là, toi, tu suis le gentil qui se fait ramasser par ce gang-là, puis qui est pas d'accord.
Ouais.
Ben, il me semble qu'on a vu ça 150 fois.
Je vais pas te rendre.
Oui, on veut pas que tu nous le spoiles, mais est-ce que, selon toi, Stephen King réussit à s'éloigner des clichés de ce concept-là, ou boy, t'as pas l'air sûr?
Non. je dirais... je suis mi-figue, mi-raisin. Non, c'est pas vrai. j'aurais tendance à dire que... Non, et ben il reste avec ses clichés.
Ça peut être bien raconté quand même.
Oui, ben c'est ça.
Ça enlève
rien.
Je
pense qu'il est capable de les utiliser comme du monde.
Okay.
J'espère juste qu'il y a des beaux moments tendres dans ce livre-là.
Ouais.
C'est très beau. J'espère que ça va se refléter dans le film.
Je pense que Flanagan, il est fort là-dessus quand même. Il devrait être assez bon. Il aime toujours ça, cette approche-là. Ouais. En tout cas,
parce que moi, j'étais bien satisfait. C'est juste que là, les gens vont avoir en tête le film qui est un classique. Et là, la barre va être très haute. C'est sûr que ça sera pas du même calibre. Là. T'as pas de Jack Nicholson.
Je pense pas que je dirais du même calibre. Je pense pas que c'est une question de calibre. Je pense que c'est juste une question de style.
Ouais, aussi.
Je pense que Flanagan a sa propre couleur. Kubrick avait sa propre couleur aussi. Kubrick a effectivement, selon moi, dans mes goûts, créé un méchant beau chef-d'œuvre, un classique du cinéma, un film labyrinthique qu'on analyse encore des années plus tard.
Oui, qui avait rendu fou. Folle,
comment
il s'appelait, Shelley Duvall, qui l'avait rendu folle.
Pour vrai, c'est ça. Fait que, oui, OK, Shining, c'est un film très spécial, puis c'est sûr que les gens vont le juger avec ça, mais à la base, je pense pas que c'est une question de calibre, je pense que c'est juste une question de style.
Oui.
Faut pas s'attendre à un autre Shining, ce sera pas Shining.
Non.
D'abord, on part de ça.
Non, tout à fait.
Après ça, on va voir.
On verra bien, on va vous en parler, ça sort le 8 novembre, comme je le disais tantôt.
Yes.
Un autre film complètement disjoncté un peu. C'est une comédie d'horreur très gore. C'est présenté par Sci-Fi. Ce sera pas au cinéma, ça va être en vidéo sur demande sur leur chaîne, j'imagine.
D'abord.
Ça va être disponible après ça sur vidéo sur demande.
Ouais.
Ça s'appelle Banana Split Movie. C'est basé sur une émission jeunesse des années 60 qui était produite par Hanna-Barbera pour NBC et qui mettait en vedette un faux band rock de quatre animaux: Flegel, Bingo, Drooper et Snorky. Donc, allez voir cette bande-annonce là. Elle est sur rock.québec d'ailleurs. C'est comme si, la fond, le principe est simple. Un petit gars qui tripe sur l'émission.
C'est un show de mascotte.
Ouais, c'est un show de mascotte. Reçoit des billets pour y aller avec sa famille. Ils sont super contents. Et en même temps, on apprend que c'est le dernier show. Le show est cancellé.
Ouais.
Et là, les mascottes deviennent folles. Et commencent à tuer du monde.
Ah ouais,
donc, tu sais, ça peut être... Moi, je pense que ça peut être super sympathique, ça peut être drôle.
Ça a l'air le fun.
Ouais, ça a l'air le fun.
Là, j'ai vu la bande-annonce juste avant, Puis ça a l'air cool. Au début, j'étais pas sûr qu'on en parlerait bien ici pour une raison très évidente. C'est une émission qu'on n'a pas connue. Hein? C'est une vraie émission. C'est comme si on prenait Passe-partout au Québec puis qu'on en faisait un film d'horreur. Pour la France, c'est comme si on prenait Pas de pitié pour les croissants puis on en faisait un film d'horreur. Fait que là, ça, c'est des mascottes américaines que j'ai reconnues parce que, bon, en tant que collectionneur d'archives, archives étranges. Je les avais déjà vus, mais je les connais pas bien. Puis j'ai vu ça, puis j'ai compris qu'il y avait un concept d'horreur, puis tout le monde, les fans semblaient triper, ouais. Mais les fans américains. Ouais. Puis je me suis dit, ben nous, on les connaît pas, ces personnages-là.
Ça le touche moins.
Fait qu'on n'aura pas la même attache qu'eux. C'est
non,
certain.
Mais t'es pas d'accord que le concept est quand même cool?
Ça a l'air quand même vraiment trippant.
Comme tu disais, prendre Passepartout, faire ça en comédie d'horreur.
Ben oui, moi, pourquoi pas? Ben là, peut-être pas que. Je pense pas que Passepartout, ça fonctionnerait, mais mettons, tu vas chercher, là.
Attends. Tu sais, comme.
Les chats, hey. Là. Ou les chats, les clowns du carrousel. Les chats, c'était quoi l'émission des chats?
Non, mais Tape Tambour, genre.
Oh, ouais, c'est ça.
Ou Félix et Ciboulette.
La princesse astronaute.
Ouais.
Tu sais, tu vois, c'est ça. On va chercher ces shows-là fantastiques, ouais. Avec des mascottes puis des personnages dans des costumes. Puis ça vire mal, puis là, ça se met à virer violent. Tu sais, j'adorerais ça voir. Hey, c'est pas obligé d'être des mascottes. Imagine-tu voir Ramdam, la suite, puis genre, ils ont toutes mal viré, puis tu fais un Requiem for a Dream avec ça, là, ça serait malade, tu sais.
Ou tu prends Watatatao, là, que tu
as. Ah, Watatatao, ben oui. Ils sont rendus adultes, puis t'en as un qui est tueur en série, ben l'autre, voilà. Il est suicidaire, l'autre est dans la drogue.
Ouais, c'est pour ça que je trouve le concept vraiment intéressant.
L'idée est très bonne. J'ai bien hâte. La bande-annonce est excitante.
Ouais, ouais. À suivre. Là, il y a, écoute, on en a une autre.
Continue.
Ouais, ouais, je lâche. Écoute, je suis dedans, là.
Continue. Je t'ai vu regarder l'heure. Je dis, non, prends ton temps. On a le temps.
Écoute, c'est moi qui contrôle.
Ah, c'est vrai. Ma gueule.
C'est ça. J'allais dire d'autres choses, mais bon.
Ben ouais, continue. Ben,
oui. OK. La prochaine, c'est Three from Hell, de Rob Zombie, la suite. Écoute, j'ose pas dire tant attendu.
Ouais, oh, reste là.
De Devil's Rejects. The House of 1000?
The House of 1000 Corpses.
Ouais, merci.
Mais de toute façon, les opinions sur les films de Rob Zombie sont très partagées. Il n'y a pas eu juste des hits, on va se le dire. Dernièrement, il ne nous a pas vraiment rassurés sur la suite de sa carrière.
En fait, moi, je vais le dire tout de suite. Moi, je suis pas un très gros fan de Rob Zombie. J'ai vu 31, j'ai vu pas mal tous ses films, puis à chaque fois, je suis comme...
Ben, moi, au début, je comprenais pas pourquoi les gens étaient tannés de voir sa blonde. J'étais comme, ben, tu sais, ça dérange quoi? T'sais, ça, elle te dérange tout tant que ça, tu sais?
Elle est juste pas bonne.
Ouais, mais pas si à chier que ça non plus. Là. Elle a une couleur à elle, puis ben, elle en a juste une. Ouais. Fait que si tu l'aimes pas, je comprends que t'accroches pas, mais pas si pire, là. Faut, là non, les non, gens capotent un peu, je
moi,
trouve.
Moi, quand je vais donner ça, The Devil Rejects, j'ai trouvé ça excellent.
Ben, c'est ça. Moi, j'ai trippé House Thousand Corps, Devil Reject dans les deux. Toi, t'as trippé moins Thousand Corps, mais moi, dans les deux cas, j'aime ça.
C'était pas si pire que ça. Oh, ouais. Devil's Reject, c'est vraiment son phénomène.
Moi, les deux, j'ai vraiment trippé, effectivement. Après ça, t'as eu son film de sorcière, si je me trompe pas.
Oui, Lords of Salem.
Ouais. Là, il a risqué beaucoup avec ce film-là parce qu'il a décidé de faire un film Hard House. On a déjà parlé un peu à l'émission. Hard House, des films qui sont très artistiques, très poudre aux yeux, avec beaucoup de visuels flamboyants. Mais moi, je trippe pas trop Hard House. Je suis très difficile avec le Hard House. Celui-là, je l'ai trouvé plate. 31, t'as-tu aimé ça, toi?
Non, moi, j'ai pas.
C'était mauvais, là. C'était vraiment mauvais.
J'ai même pas fini Halloween 2.
Ah, c'est vrai, il a fait les Halloween aussi.
Ouais. L'un, c'était comme...
Les Halloween, je les ai pas détestés, mais c'était comme Halloween téléfilms. 2, pour moi, c'était des téléfilms d'Halloween. Là. C'était divertissant, mais sans plus. Là. Ouais. Mais ouais, là, est-ce qu'il va réussir à regagner son public avec le prochain? C'est ce qu'on se demande. Et malheureusement, parce que là, je propose de revenir à la bande-annonce. Oui. Malheureusement, la bande-annonce ne nous rassure pas du tout. Ben, veux-tu me dire pourquoi?
Parce qu'on voit pas grand-chose. Ben, premièrement, on voit beaucoup d'images de ces autres films.
Ben oui.
Et moi, ce que j'aime... C'est comme un peu absurde. Il doit répondre à des questions pour les internautes.
Oui, il a sorti une vidéo
là,
après.
Tu sors un teaser, puis après ça, il faut t'expliquer.
Ben oui, expliquer un teaser d'une minute.
C'est un peu n'importe quoi. Là.
Ben, ça démontre à quel point les gens ont chialé parce que ça disait rien, puis que c'était n'importe quoi comme bande-annonce. C'est vraiment une des pires bande-annonces que j'ai vues en longtemps. On va se le dire. Là. Il y en a eu d'autres poches, mais celle-là était là-dedans.
Puis les questions. Quand le film a-t-il lieu? Et immédiatement après Rejects. Comment survivre-t-il? Eh bien, vous devrez voir le film pour avoir la réponse. Quand est-ce qu'il sort? Le film sera dans la salle en septembre, pas encore sûr de la date de sortie. Quand on nous la longue bande-annonce en juillet. Qu'est-ce que c'est ça?
Ah, oh, c'est weird, hein?
Qu'est-ce que c'est ça?
Mais je vais quand même préciser un détail. Parce que c'est pas tout le monde qui le sait, puis c'est pas toujours le cas non plus, mais il y a beaucoup de grosses productions que la bande-annonce n'est pas montée par le réalisateur, mais par un sous-réalisateur engagé, et parfois même engagé par le studio, pas toujours par le réalisateur. Il est pas toujours d'accord avec ce choix-là.
T'as bien raison.
Fait que je me demande si c'est pas ça qui est arrivé avec cette bande-annonce-là. Ou sinon... Il veut tellement pas nous en donner tout de suite. Il veut tellement pas nous spoiler. Ouais. Peut-être c'est un teaser. Oublions pas que c'est un teaser. Un teaser, par définition, ça dit rien. Là. Ça te monte une image pour te hyper. Fait que peut-être qu'il a essayé de monter juste ça, un teaser pour nous hyper, pensant qu'on verrait les faces de ces personnages puis qu'on capoterait. Ouais. Malheureusement, ça a pas marché. Mais je sais pas ce qui est arrivé. Là. Si son film est monté comme sa bande-annonce,
on va espérer que ça soit aussi bon que The Devil's Rejects.
Il faut que ça soit bon. Il faut qu'il finisse cette trilogie-là en beauté. Là. Parce que là, il n'y a pas le choix. Là, c'est un hit and miss. Là. S'il manque son coup avec ce film-là, là, je ne sais pas s'il va retrouver du financement pour la suite, là, lui. Là. Mais bon, on va voir.
T'en
avais d'autres, je pense.
Oui, hein, que tu voulais que je parle. Là. Tu te souviens?
Non, je me souviens pas.
Si je te dis Amityville.
Ah oui, elle. Vas-y, je te laisse commencer ça.
Ben non, mais écoute, après 11 films officiels, dont un dernier volet paru l'an dernier, la franchise Amityville s'apprête à faire un retour aux sources. À Deadline annonce que The Wonder Film Media Corporation accorde aujourd'hui le feu vert pour une production qui va se passer en 1974, donc avant les événements de 1979. Et t'as une opinion assez forte là-dessus.
Je suis en tabarnak.
Vas-y, exprime-toi.
Je suis vraiment pas content. C'est pas que je suis en tabarnak, mais je me sens insulté par les propos de la production. C'est-à-dire que là, ils sortent un prequel autour de l'histoire qui est arrivée avant les événements, comme t'as dit, de 70.
En fait, en novembre 74.
Voilà. Donc,
DeFeo Junior qui a battu 6 membres de sa famille.
Ouais, puis en fait, la vraie histoire, c'est sa sœur aussi. Okay. C'est lui puis sa sœur. C'est pas une question de folie ou de possession. La vraie histoire, c'est que le père était une très mauvaise personne. Il y a eu des abus, de la violence dans la famille. Il y a eu des agressions. Bref, c'est une très mauvaise personne. À un moment donné, ils se sont tannés et le plus vieux fils de la famille et sa jeune sœur ont décidé qu'elle allait tuer les parents. La mission était qu'elle allait tuer uniquement les parents. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont finalement tué les autres enfants aussi. Okay. Et je me rappelle plus pourquoi, mais finalement, il a aussi tué sa sœur. Je pense que c'était à sa demande qu'il disait. Bref, la famille au complet était décimée avec un 12 et seulement lui a survécu. Il a été accusé de meurtre et tout ça. Ça, c'est ce qui est arrivé dans la maison d'Amityville avant que la famille emménage puis dise qu'il y a des fantômes. Bon. Là, déjà, là, hein, faites vos recherches, là, arrêtez de capoter avec l'histoire d'Amityville, il s'est rien passé dans la maison. S'il s'est passé quelque chose, c'est pas grand-chose. On le sait de sources sûres qu'il y a eu des conversations autour de bouteilles de vin entre l'auteur du livre, le père de la famille et l'avocat de DeFeo. Il voulait relancer l'affaire de DeFeo aussi. Ah oui. Tout ça, là, c'est une grosse gamique pour faire une passe de cash. Ça n'a pas de bon sens. Ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, Amityville est la maison hantée, la plus célèbre au monde. Mais en réalité, c'est de la poudre aux yeux. C'est du gros mensonge écrit autour d'une bouteille de vin. OK? Bon. Ceci étant dit, Amityville, tu l'as dit, il y a 11 films, OK? Dont probablement 9 téléfilms un peu ordinaires. Il y en a des meilleurs que d'autres. Dans les téléfilms, il y en a des très cool, en fait. Il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai moins aimé. Bon, ça va. Ce qui me gosse avec le nouveau prequel, c'est qu'il en parle comme si c'était la première fois que ça sortait. La première fois qu'on va faire prequel, c'est le tout premier prequel de toute la série, et c'est pas vrai. Amityville 2, qui est sorti, je pense, quelque part entre 80 et 82, c'est un prequel. C'est déjà un prequel, OK? C'est exactement l'histoire de Féo qui tue sa famille, puis blablabla. Fait que là, il y a deux possibilités. Soit que la production nous ment, soit que insultant par le fait même l'auditoire, si tu veux mon avis.
Pas mal, je trouve.
Ou soit qu'ils sont même pas au courant. ce qui démontre qu'ils connaissent pas leur matériel. Ben. Dans les deux cas, j'ai le goût de les frapper avec une brique. Je suis insulté. Je suis pas insulté de l'idée. T'as le droit de faire un prequel, puis il peut peut-être être super bon. Mais viens pas me dire que c'est le premier. Viens pas me mentir en pleine face. Ou sinon, si tu le savais pas, ben, occupe-toi pas d'Amityville, tu connais pas ton matériel.
Au pire, dit que c'est un remake.
Ben oui, c'est pas grave. C'est pas obligé d'être un remake. Ça peut être ta propre version. Mais tu peux pas. Depuis quelques années, là, on a de plus en plus de films plus obscurs qui sont réadaptés en remake, puis ils nous font croire que c'est la première fois que ça sort, mais nous, les connaisseurs, on le sait que c'est pas vrai. Fait que moi, ça m'insulte, cette approche-là de marketing, puis c'est ça.
C'est correct. Écoute, c'était. Je vais terminer avec une nouvelle plus.
Vas-y, remonte le moral.
En fait, plus joyeuse pour les autres, mais t'es pas pour toi. Puis
ah,
moi.
Je sais où tu t'en vas.
Je sais.
Tu vas être encore maudit.
Écoute, en fait, l'année passée, c'était le E3. Il y a eu plein d'annonces, plein de jeux comme à chaque année, mais la grosse nouvelle.
Dont la plus importante, c'est que Kenny Reeves est cool.
Ben, écoute, il est redevenu cool. La bombe capote.
Ça n'a pas de bon sens, l'amour de Kenny Reeves en ce moment.
Je sais, mais bon. Je suis curieux de jouer à ce jeu-là, puisque cette compagnie-là fait des astuces de bons jeux.
Ben oui, je trouve juste ça drôle.
Oui, c'est très drôle. Bref, écoute, moi, j'en avais même pas entendu parler. C'est lors de la conférence de Microsoft. Ils ont parlé du jeu Blair Witch. C'est pas de Blair Witch, c'est Blair Witch. C'est basé sur, évidemment, sur le film de 99.
Big Fish.
Exactement.
Non, non.
T'as tout compris. Écoute, ça va être disponible le 30 août.
Hey, ça va vite.
Ça approche sur PC et Xbox One. Et là, le petit détail qui nous agace.
C'est que nous, on est PlayStation.
Nous, c'est ça, on a des PS4. Donc, je ne pourrais pas y jouer à moins que je m'achète une Xbox One.
On devrait quasiment s'acheter une Xbox à la gang. Puis chacun notre tour se la partir, se la prêter pour qu'on puisse jouer à ces jeux-là.
Se partir un téléthon. Envoyez-nous vos dons.
Oui, on va partir au crowdfunding pour se payer une Xbox.
pour pouvoir vous en parler.
Oh, mais
ça va, écoute, ça a l'air intéressant parce que ça va se dérouler 3 ans avant les événements, dans la forêt, un peu à la Outlast. Fait que j'ai vraiment hâte de voir plus de détails, puis ça a l'air vraiment.
Ouais, cool. Ça me frustre les deals d'exclusivité. Tellement de jeux que j'aimerais jouer. Mais gars, c'est ça, faut faire des choix dans la vie.
Écoute, on va faire autre chose à la salle.
Ah, c'est comme les sites de streaming, tu peux pas t'abonner à toutes, ça te coûterait une fortune. Faut faire des choix.
Et
voilà.
Sur cette belle note, on va aller en musique avec une chanson, écoute, tirée du film de Don't Go in the House de 1979, Boogie Lightning.
Oh yeah.
Un petit peu de disco, ça va être toujours du bien.
Ben ouais, on va shaker, fait ça en studio.
On y va.
All night. All night. Hey, moi, là, je t'ai sorti une belle histoire aujourd'hui. Ben, une belle histoire. Ben, non, une histoire triste, là, mais une belle histoire. Hein, tu le sais que, hein, moi, j'aime ça, les histoires de malédiction, de ces tournages, puis tout ça. J'en ai déjà parlé beaucoup ici, d'ailleurs. Plusieurs tournages de films hollywoodiens ont la réputation d'être aux prises avec une malédiction. Je vous fais des petits rappels de quelques classiques rapidement, là, comme le Poltergeist, hein, on le sait, on en a tout entendu parler. Dominic Dune avait été assassiné par son ex-copain violent. Ça, c'était l'adolescente de la famille.
Oui.
Elle avait 23 ans. Elle a été tuée par son copain. Heather O'Rourke, la petite fille, la blonde. Donc, elle avait eu un mauvais diagnostic médical. On avait dit qu'elle avait le crâne. Mais en fait, c'était une occlusion intestinale. Puis elle est décédée à l'âge de 12 ans.
Quand même, hein?
C'est jeune, là. Julian Beck, ça, c'est le vieil homme creepy du 2. Il est décédé d'un cancer à l'âge de 60 ans, quoique c'est un peu plus commun, tu sais.
Ben, c'est ça.
Richard Lawson, qui avait passé près de la mort, qui a finalement survécu à un crash quand il a été déplacé en première classe. Lou Perryman, un des gars de la construction dans le film, il a été attaqué à la hache chez lui par un criminel en cavale entré chez lui par effraction random.
Sympathique.
Ouais. Et, mais tu sais, entre vous et moi, j'y crois pas à la malédiction de Poltergeist, parce que quand la mort arrive 25 ans après la sortie du film, là, viens pas me parler de malédiction, non. Là, t'sais, ça a plus rapport, là.
Je pense c'est des choses naturelles de la vie.
Ben oui, les gens meurent. Ça veut pas dire que c'est de la faute à une malédiction tout le temps.
On a la vérité ici.
Ben oui, sinon on connaît aussi l'histoire des malédictions de The Omen ou Exorcist et j'en passe. Il y a aussi la malédiction entourant l'histoire de Don Quichotte dont plusieurs ont tenté de produire. Hein, tout le monde connaît l'histoire classique de Don Quichotte, mais il y a tellement toujours eu de problèmes que les films ne sortaient jamais, ce qui a poussé plusieurs à croire que l'histoire était maudite. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous suggère fortement le documentaire Lost in La Mancha, qui commence à dater un peu, je pense que c'est sorti des années 90, racontant le tournage catastrophique de Terry Gilliam en essayant de produire son film The Man Who Killed Don Quixote. Un excellent documentaire, un méchant bordel ce tournage-là, puis le film a jamais vu le jour. Aujourd'hui, oui, depuis, il a finalement réalisé son film, sorti l'an dernier, brisant ainsi le mythe de la malédiction. Mais il existe une autre histoire de malédiction dont on parle peu et qui est vraiment fascinante. Atouk, le scénario qui tue. Donc, l'incomparable Atouk est un livre qui a été écrit par Mordecai Richler qui a été publié en 1963 racontant l'histoire d'un Inuit qui emménage à Toronto et qui va rapidement adopter la cupidité et la prétention des gens de la ville. T'sais, en gros, c'est une histoire classique. Là, hein? C'est un peu comme Crocodile Dundee, Fievel, Big Fish, Pleasantville, Elf, Édouard aux mains d'argent. T'sais, c'est qu'est-ce que, un poisson que tu sors de l'eau puis qui tu le regardes aller. Mais c'est un peu ça. Tu sais, en anglais, ils vont dire « fish out of the water ».
Oh oui, oh oui.
Mais ça se traduit pas vraiment. Mais donc, en 1971, le producteur Norman Jewison va acheter les droits pour l'adaptation cinématographique. Le scénariste Todd Carroll a écrit une première version du scénario, mais transpose l'histoire à New York au lieu de Toronto. Toutefois, le film n'a jamais été produit et c'est pas faute d'avoir essayé. Ce qui semble, il semble y avoir une étrange malédiction autour du film. Chaque fois qu'on approche quelqu'un pour le rôle principal, il décède peu de temps après. Qu'est-ce que c'est? Bon,
c'est comme la faute. J'ai cliqué
ça
sur le son.
Ça sortait d'où tout ça?
Je sais pas, j'ai cliqué sur le...
Bon, mais il y a trois tunes qui sont parties. Je suis même pas capable de faire ça quand j'étais à console. Ça fait cinq ans que je l'ai fait. Comment t'as fait ça?
J'ai des doigts de feu. Mais bref.
Mais là, ce que je pense qui est arrivé, là, c'est que toutes tes tunes sont sorties de ta playlist. Parce que quand ils jouent fois, ils disparaissent. Fait qu'il faut t'y remettre dedans. Là.
Ben oui, je vais les remettre. Bon. C'était quasiment beau.
Hey, on s'est presque pratiqué vu que c'est sa première fois à console. J'y ai lu mon texte. J'y ai
tu veux-tu
dit,
qu'on recommence?
À ce moment-là, ben oui, donc, t'es-tu prête?
Attends, écoute, je vais essayer. Là.
On y va?
Vas-y.
Il décède peu de temps après. Bon.
Là.
Tu vois, si on avait réussi notre coup, c'était à ça que ça aurait ressemblé.
Ben, écoute, ça aurait été magique. Mais bon.
Donc.
Merci, Eric. Bravo.
Donc, la malédiction d'Atouk, le scénario qui tue. Voilà ce qui est arrivé. En fait, hein, là, on s'est perdu un peu, mais c'est ça qui est arrivé. Chaque fois qu'on a approché quelqu'un pour un rôle, ben, la personne est décédée peu de temps après. Donc, on se lance. On part du départ, là. Ça débute avec John Belushi. C'est le premier à avoir été approché en 1982. Belushi était très intéressé par le scénario, mais quelques mois plus tard, en date du 5 mars, son entraîneur, Bill Wallace, trouve sa dépouille sans vie dans sa chambre de l'hôtel Chateau Marmont. Il avait 33 ans. Il est décédé d'une overdose d'héroïne. Deux mois plus tard, la chanteuse et groupie Kathy Smith, c'est un autre cas, mais je vous invite à aller sur Kathy Smith si l'histoire des groupies complètement folle vous intéresse, admet que c'est elle qui lui a donné la dose mortelle d'héroïne. On fera pas une analyse de l'affaire, là, mais au final, elle sera accusée du meurtre au premier degré de John Belushi.
Ben, j'espère bien.
Par la suite, ayant perdu leur acteur principal, donc ils retournent sur le marché et ils vont approcher Sam Kinison en 1986 pour le même rôle, hein, celui de l'Inuit. La production débute donc en 1988. Oh, là, c'est excitant, on commence à produire. Mais après 8 jours de tournage, ils doivent mettre la production en pause parce que Kinison n'est pas d'accord avec la manière dont le scénario a évolué. Donc, il commence à lui-même réécrire des scènes. Il affirme qu'il a reçu la permission des studios pour réécrire, mais c'est faux. Il est devenu un enfer sur le plateau de tournage, puis ça s'est ramassé en procès. La production est donc mise sur la glace jusqu'en 1992, le temps de régler les problèmes légaux avec Kinison. Malheureusement, avant la fin des négociations, Kinison décède le vendredi 10 avril 1992. Un jeune chauffeur ivre de 17 ans est rentré de plein fouet dans sa voiture avec son pick-up, son gros camion, et la scène est très étrange quand même. Ça devait pas être super beau à voir. Kinison, il décède pas sur le coup. Son meilleur ami et son frère, qui suivaient dans une voiture à l'arrière, bon, ils courent vers Kinison et bon, ils s'en vont à la porte. Et à première vue, il a l'air correct. Les gars voient pas de blessure, a priori. Mais là, Kinison commence à se parler tout seul. Il a même pas le temps de le sortir de la voiture, là. Il se parle tout seul, puis il se répète « Je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. » Puis là, tout d'un coup, il se met à parler à quelqu'un qui est pas là. Puis il aurait dit « Mais pourquoi? Ah, ok, ok. » Puis là, il a perdu conscience. C'est quand même assez creepy.
Ben un peu, hein, quand
mais,
même.
Ouais, et finalement, il aurait jamais réussi à le réveiller et il est mort sur place des suites de blessures internes. Okay. C'est pour ça qu'on ne voyait pas de sang. Finalement, ben, sa femme a été avec lui dans la voiture. Elle a survécu avec une commotion cérébrale. Donc, c'est assez triste. Au final, donc, la production refuse de baisser les bras. Ils veulent quand même produire Atouk. Alors, en 1994, ils approchent John Candy. Ils lui offrent le rôle d'Atouk. Candy est emballé et commence à étudier le scénario. Puis, il décède d'une crise cardiaque au Mexique en date du 4 mars. Il avait 43 ans. Mystérieusement, Candy a demandé à un de ses proches amis, Michael O'Donoghue, de lire le scénario dans le but de l'engager lui aussi puis lui donner un rôle dans le film. En novembre de la même année, Michael décède lui aussi. Il avait un historique de migraine et il serait mort d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 54 ans. Donc, le film Maudit refait surface en 1997. Le rôle d'Atouk est offert à Chris Farley. Il sait qu'on avait d'abord offert le rôle à son idole John Belushi. Alors, il est intrigué et il démontre un vif intérêt. Donc, mais bon, vous commencez à le voir venir. Hein? Farley décède à l'âge de 33 ans, quelques mois après avoir lu le scénario, en date du 18 décembre. C'est son jeune frère, en fait, qui l'a trouvé dans son appartement, mort d'une overdose d'héroïne, comme son idole, John Belushi.
C'est triste, ça.
Ouais. Et un peu comme l'avait fait John Candy, Farley a proposé le scénario à un de ses amis pour l'embarquer dans le projet. Cet ami, c'était nul autre que Phil Hartman. J'en ai déjà parlé ici par le passé, mais je vais quand même le résumer. Hein. Je vais pas aller dans les détails, mais je vais résumer l'affaire Phil Hartman. Donc, 5 mois après le décès tragique de Farley, Hartman est assassiné par sa femme. Bryn Hartman, sa femme, avait un problème de drogue. C'était une des raisons principales de leurs disputes régulières. Un soir, justement, ils se disputent pour cette raison. Phil veut que sa femme arrête de consommer, sinon il va demander le divorce. Ça a l'air que ça s'est chicané très fort ce soir-là. D'ailleurs, les enfants étaient dans la maison, ça devait pas être super agréable. Ouais, c'est toujours rough, ça, les histoires. Pour les kids, là, c'est toujours rough, les histoires de chicanes conjugales.
Dans le fond, à date, là, je suis pas sûr John Candy, mais ils ont offert pas mal à tous des gens qui ont joué dans Saturday Night Live.
Ah, c'est vrai. Mais c'était pas que c'est moins populaire aujourd'hui, mais ouais. À l'époque, quand on voulait faire une comédie puis attirer les foules, tu sais, on faisait souvent ça. Ouais. Là. C'est vrai que c'était tout. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'était tout du stock de Saturday Night Live. Donc, le même soir de la chicane conjugale, il est 3h du matin, Bryn va se lever dans la nuit sans réveiller Phil et elle va lui tirer dans la tête à 3 reprises. Elle a pris sa voiture et elle a conduit jusqu'à chez une amie et là elle confesse le meurtre. Son amie ne la croit pas et ils vont retourner à la maison ensemble. Évidemment, en voyant le corps, son amie panique et appelle la police.
Avec raison.
Et pendant que la police débarque, pendant que la police commence à escorter les enfants hors de la maison, Bryn s'est enfermé dans la salle de bain et s'est suicidé avec la même arme. Au final, l'incomparable Atuk aura fait 6 victimes. Est-ce vraiment une malédiction toutefois ou simplement d'étranges coïncidences? Ben là, à vous de voir. Hein? Toutefois, ce qui me saute aux yeux avant tout, c'est plutôt la bande d'hommes blancs castés pour jouer les rôles d'un Inuit.
J'avoue, hein, j'ai pas pensé.
Chapeau Hollywood, vive les hommes blancs hétéro-normatifs.
Bon, oui.
Donc, si vous voulez mon avis, pour moi, c'est un peu plus ça le scandale, mais bon, heureusement, ça s'améliore un peu, mais pas, on n'est pas encore rendu là. Non. Il y a encore des gros débats à chaque film. Mais voyons pourquoi elle a joué une japonaise quand elle est américaine. Mais là, il faut comprendre que c'est la culture américaine, sont comme ça. Pour plaire aux Américains, ça prend des Américains. On en a déjà parlé ici, d'ailleurs. Rappelez-vous que des fois, sur les films italiens qui étaient importés ici, on changeait les Philippins, films japonais aussi. On changeait les noms des comédiens pour des noms qui sonnaient américains pour donner l'impression que c'était un film américain parce que sinon les gens le louaient pas. Je sais pas si on a le même feeling au Canada, je serais surpris, mais c'est très américain de ne vouloir regarder que des films américains. Fait que c'est ça. Ça a beau être un film japonais, ils vont jamais mettre un japonais. Mais ils vont mettre un américain. C'est comme ça.
Alors, Marc, il y a pas si longtemps, il me semble, au gala artiste, là, c'était que des blancs.
Ah ben ça. On s'en sort pas. Je sais pas si ça va se placer un jour, mais j'ai l'impression qu'on en a pour un autre 20 ans, là. Puis rendu là, ça va être la fin du monde.
Ben voilà. C'est en 2050 qu'on dit, là.
2050, bon, tu vois, ça s'en vient.
Ça s'en vient. On lâche pas.
On lâche pas les hommes blancs hétéronormatifs. On lâche pas.
Vous êtes capable avec votre domination.
Donc, pour l'instant, le scénario de l'incomparable Atuk dort dans un garde-robe des studios de la United Artists. Qui sait s'il sortira de l'ombre un jour? Qui sait lequel acteur blanc sera la prochaine victime? Toutefois, si vous êtes curieux et que vous aimeriez découvrir le fameux scénario, il est disponible en ligne en entier, gratuitement. Je vous invite à le découvrir sur le blog au www.lesoubliettes.ca. Ah, ça peut être une lecture intéressante ou mortelle.
Ben, c'est ça que je me disais. Là, ben,
je vais préciser, hein, on remarque que c'est des gens à qui on a offert un rôle. Fait que tant qu'on vous offre pas le rôle, vous êtes en sécurité.
C'est correct.
Voilà, c'était mon exposé oral.
Hey, bravo Simon, tu mérites 2 collants.
Ah, yeah! Ah, je suis content.
Je te dirai pas où. Mais bon. T'as remarqué que aussi c'était... il y en avait 3 sur 4 aussi qui étaient quand même assez corpulents.
Oui, mais ils sont tous gras. Mais je sais
Bill
pas.
Hartman n'était pas...
Mais Bill Hartman, c'était pour un rôle secondaire.
Oh, OK.
Ouais,
okay.
En tout cas, il y en a 2 qui étaient pour des rôles secondaires. Okay. Mais ouais, c'est ça. C'est tous des gras. Fait que peut-être que c'était le but. Mais oublie pas que c'est l'image qu'on se fait d'un Inuit.
Oui, ben c'est ça
à
aussi.
À cause de quoi? À cause des fourrures. Pas parce qu'ils sont gros, c'est parce qu'il fait frais. Ils sont habillés de manteau. Fait qu'on les imagine gras. C'est épais, là. Oh, c'est épais. Mais
qu'est-ce
gars, c'est ça la culture américaine. Ben, non, franchement, je regarde les commentaires en ligne sur le racisme au Québec en ce moment, puis en France, puis je m'excuse, mais c'est une culture internationale, malheureusement.
Oui, c'est assez décourageant.
Les hommes blancs hétéronormatifs, hein? Maudit qu'on est hot.
Ah ben vous êtes moi je pense je fais pas partie de votre gang.
Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi tu fais pas partie de notre gang?
Ben je suis pas hétéronormatif, en tout cas j'espère. Quoi que mon chum me dirait peut-être.
C'est vrai,
un peu
j'ai
les
pas
fois.
Le réflexe de parler de ça.
Ouais, des fois je dois l'aider des fois. Inconsciemment. Consciemment. Bref, c'est un autre sujet.
Vous comprendrez ce que vous voudrez comprendre à la maison.
On fera une psychothérapie ensemble, si tu veux.
À condition que c'est moi le psychiatre.
Ben c'est correct. Non, mais tu sais, le combat entre l'homme hétéronormatif et
Ben je vais perdre.
Tu penses?
Ben oui, je vais perdre. Je suis obligé de respecter votre culture tandis que la mienne est en déclin. J'ai pas raison.
T'es en déclin.
Ben oui, attends, avec toutes les... Hey, là, je me mets dans la marde. Mais c'est pas grave, on finit avec ça. Je me mets dans la marde. Mais en réalité, l'impression que j'ai, j'irai pas jamais jusqu'à dire « On peut plus rien dire! » C'est complètement attardé comme phrase. Mais il reste que l'homme blanc hétéronormatif, qui a toujours été au pouvoir, en quelque sorte, est en train de prendre une débarque parce que là, tout le monde autour est tanné. Puis, ben, que ce soit les femmes,
raison.
Que ce soit les homosexuels, que ce soit les immigrants, tout le monde est tanné, puis là, on essaie de nous tasser.
C'est pas drôle quand l'homme blanc se sent insécure. Oh, que c'est pas drôle.
Ah non, ben tant mieux, là. Pour une fois que c'est nous autres qui se sent insécure.
Ben,
là,
il était temps.
Il était temps maudit. Ça, il est arrivé la même chose quand ils ont sorti le cinéma Blaxploitation aux États-Unis. Ça faisait 100 ans à peu près là, que tous les films mettaient en vedette des blancs, puis que les noirs, c'était de la merde.
Ouais.
Là, soudainement, on a des films qui mettent en vedette des noirs pour des noirs, faits par des noirs. Puis là, les blancs disaient, c'est des films racistes contre les blancs. Hey, va t'asseoir.
Ben, c'est ça.
Chacun son tour.
Va réfléchir dans le coin.
Ben, c'est ça. Fait que, hein.
C'est pour ça. Fait que ça me fait pas tant de peine que ça.
Non, ben non. On mérite tout ce qui nous arrive.
Un petit peu.
Ben voilà.
Quand même.
Le karma.
Le karma. Écoute, est-ce qu'on termine
là-dessus? On a fini.
Écoute.
C'était cool, on a eu du fun, j'en ai avec toi.
Hey, on dirait qu'on sait pas trop comment finir. Là. C'est comme, tu sais, une date.
Ben, je vais finir, je vais coller
non,
à toute la
non,
fin.
Non, c'est correct, mais tu sais, c'est comme une date. Là, tu sais,
ah oui,
comme
malaise.
Collègue,
là,
tu sais, comme...
Est-ce qu'on s'embrasse ou est-ce qu'on se sépare? Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce que je te donne un bec sur la bouche? Tu sais, écoute, la mère, tu fais rien, puis tu t'en vas.
Ouais, mais non, mais... Moi, je suis en train de me dire, peut-être qu'on devrait pas inviter Olivier à prochain épisode. Ça, on a eu du fun, juste toi et moi.
Ben, je sais.
Ouais, okay, on lui dira pas la date du prochain épisode.
On n'est pas juste à c'est ça qui est le fun.
Puis là, à la maison, vous ne dites pas, on garde ça entre nous.
Oui, non, parlez pas, Olivier.
C'est un secret.
S'il vous plaît, on l'aime.
Parfait. Ben, j'ai bien du fun avec toi, Eric.
Ben, écoute, moi aussi, j'ai du fun. Soyez indulgents avec moi, mais ça a fait quand même pas si pire que ça.
Ça a bien été.
À part mes sons, là. Mais cool.
On se laisse avec Astro Cowboy et une chanson qui s'appelle White Shoes. Écoute. Mais probablement qu'il va partir en Night Long encore. Là. Si tu pars en Night Long, laisse-la jouer.
Ok, c'est bon. J'y vais. Hey, bonne soirée tout le monde.
Yes.
Yeah.
Bonne semaine. I'm way too late.